La ligne commence par le mot Abir, mais nous lisons l'avant-dernier mot, Mashiach Dirkonel. Vous avez trouvé? C'est facile. 22. Oui, 22 lignes. 24, j'ai dit? 24 lignes, allez-y. Comment ça, c'est pas la bonne page? Tu vas raconter, c'est ça. Vous n'avez pas trouvé? C'est à la page 180, ligne 24, voilà. Donc, Mashiach Dirtiv. Le Mashiach aussi, ainsi qu'il est dit. Le Mashiach aussi quoi? Le Mashiach est un des six descendants de Ruth qui reçoit six bénédictions. C'est ça? C'est-à-dire nous avons étudié. Qui sont les six personnages? Il s'agit de David, du Mashiach, de Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ça fait donc six descendants de David qui, chacun d'entre eux, a reçu six bénédictions. Alors, comment? J'ai rien compris. Des descendants de route. Ouais. Quand ils descendent de route. Et donc, la semaine dernière, eh bien, on a étudié les six bénédictions de David. Et là, nous allons voir les six bénédictions du Mashiach, qui descend également de David. Mashiach Dirtiv, d'où est-ce que nous savons qu'il a six bénédictions? C'est dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, Venaha alav ruach Hashem, sur lui se déposera l'esprit de Dieu, ruach chokma uvina, ruach etza ugvura, ruach daat veirat Hashem. Donc vous avez ici un esprit de sagesse et d'entendement, un esprit de conseil et de vaillance, un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Ce qui vous fait donc 6. Quand? Non, pourquoi?
Ruach Hashem.
Non, Ruach Hashem, 2 points. C'est-à-dire, d'accord, Ruach Hashem, esprit de Dieu, à savoir, Ruach Chochma Ubina, c'est-à-dire sagesse et entendement, Ruach Haetza Ugvura, un esprit de conseil, oui, de bon conseil et de vaillance. Ruach da'at vi'irat Hashem, un souffle de connaissance et de crainte de Dieu. C'est ça? Urtiv ve'ariho vi'irat Hashem. Il est dit du Mashiach qu'il respire, qu'il sentira par le souffle de, par la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu chez le Mashiach s'exprime par la faculté olfactive. Il pourra sentir. Il aura le don du flair. C'est que le don olfactif, le sens olfactif, hein, ouais. Le sens olfactif chez les animaux est très développé, mais chez les hommes, non. C'est-à-dire chez les hommes, il y a une atrophie de l'olfactif, du sens de sentir. Et il reste ce sens chez ceux qui ont une sensibilité très développée, une neshama très adina, très fine. Ve'ariho bi'irat Hashem. Donc, une des facultés qu'aura... C'est terrible, j'ai retard. Enfin bon. Une des facultés qu'aura le Mashiach, c'est la capacité de sentir les choses. C'est-à-dire que quand on lui amènera un jugement, il tranchera par l'odorat. Il dira, approchez, accusé, approchez-vous, coupable, ou bien innocent. D'accord? Il aura le don de sentir les choses. D'accord? Bon, c'est ce qu'on dit du Mashiach. Et, hein?
Pardon?
Oui, c'est ça. On l'a mené. Ta main tremble. Oui. Alors, mais là, ça, ce n'est pas la première interprétation. La première interprétation, c'est Ve'ariho. Ça viendrait du Rechaim. Rechaim, c'est la meule. Tu sais ce que c'est une meule? C'est quoi une meule? C'est une très grosse pierre. Il fait partie du moulin. Ouais. C'est une très grosse pierre qui fait partie du moulin à grains et qui pèse très lourd. Voilà, qui tourne. Alors, essayer de porter une pierre de ce genre, ouais, c'est très dur. Alors, c'est quoi Ve'ariho? Ou bien, pour faire tourner la pierre, ce qu'on fait, on met une poutre dans le centre de la pierre, c'est une sorte de poutre, on attache une autre poutre et on fait tourner. Mais c'est très difficile. En général, on se sert pour cela, soit d'une force extérieure, par exemple l'eau, c'est pour ça que les moulins sont à côté des rivières, ou bien on se sert d'un animal. Il est rare qu'on se serve d'un homme. Les hommes, c'est très difficile pour pousser cette pierre. Alors, donc, Ve'ari Chobirat Hashem, Amar Rabbi Alexandre. Rabbi Alexandre disait « Melamed shita inno mitzvot ve'yisurin kerechaim » Cela veut dire que le Mashiach sera chargé de mitzvot. Certains suppriment le mot parce qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire ici. « Ve'yisurin » et des souffrances « kerechaim » comme la meule du moulin. C'est-à-dire que le Mashiach va beaucoup souffrir. Pourquoi est-ce qu'il doit souffrir le Mashiach?
Pour prendre nos péchés.
Alors, vous comprenez qu'il y a un problème dans cette formulation. C'est-à-dire, ça a une connotation extrêmement, disons, chrétienne, bien qu'il y a des midrashim qui vont dans ce sens. Effectivement, le Mashiach fait, comme tous les tzadikim, il fait l'expiation des péchés de l'humanité. N'est-ce pas? Et souvent, bon, c'est un thème qu'on retrouve souvent, que le tzadik est là pour faire la capara des autres. Ça, bon. Il y a aussi une autre idée, tout simplement, que c'est difficile d'être le Mashiach, parce qu'il y a une grande opposition. Étant donné que le Mashiach doit transformer le monde, alors il est normal que le monde se défende. C'est-à-dire, quand vous investissez beaucoup d'énergie, il y a une résistance. Alors, comme il s'agit ici de la transformation avec un grand L, ou avec un grand T, comme vous voulez, ça dépend si vous mettez ça à l'article ou au mot, eh bien, il y a une opposition du monde qui fait qu'il y a une grande souffrance du Mashiach pour transformer le monde. C'est-à-dire qu'il souffre de nos péchés, c'est vrai, mais il n'est pas là pour les expier. Il est là pour les ressentir. C'est-à-dire, l'image que donne Rabbi Yehuda Lévi, c'est l'image du cœur. Le cœur a une très grande sensibilité, il ressent les souffrances du reste du corps. Alors, si vous voulez, le Mashiach a une personnalité un peu cardiaque, c'est-à-dire il est le cœur d'Israël et donc il se ressent de nos souffrances. C'est-à-dire que souvent vous avez, par exemple chez les fous, le désir d'être le Mashiach. Oui. C'est-à-dire chez les Français c'est Napoléon, chez les Juifs c'est le Mashiach. D'ailleurs il y a un rapport parce que Napoléon représentait d'une certaine manière le Messie des Français. Et alors pour décourager les gens, dites-leur cette Gemara. Vous voyez, c'est très difficile d'être le Mashiach, c'est pas si simple, ça vaut pas la peine. D'accord? N'essayez pas. Rava Amar, c'est-à-dire une gematria du Rav Yitzhak Ginsburg, qui dit Meshuga, le fou, en gematria, c'est Ani Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a. C'est très profond, parce que ça veut dire que il y a dans l'intériorité du moi de chacun un élément, si vous voulez, de Géoula, de rédemption, et quand c'est ressenti très fort, alors on devient fou. Et pour ça que les fous se prennent pour le Mashiach. D'accord? C'est pas un hasard. Il y avait au Kotel, il y avait le Rav Zussman. Vous avez parlé du Rav Zussman? C'était un des grands élèves du Rav Yaakov Moshe Harlap. Vous avez entendu parler du Rav Yaakov Moshe Harlap? C'était un des grands élèves du Rav Kook. Vous avez certainement entendu parler. Bon. En tout cas, le Rav Zussman était un grand kabbaliste, quelqu'un de très profond. Et quand il était au Kotel, il y avait toujours un casse-pied qui lui disait « Je suis le Mashiach, je suis le Mashiach ». Alors un jour, le Rav Zussman lui a dit « Écoute, sache que dans tout juif, il y a une étincelle de Mashiach, mais si on en parle, elle disparaît ». Alors depuis, il s'est tué. Ben, il y en a plein qui se
retrouvent. Il y a une petite assemblée et puis...
Oui, il y a des gens comme ça, ou ça
oui,
vous avez...
existe ici.
À Jérusalem, il y a des gens, un groupe de gens qui se prennent pour le Mashiach.
Non, bah, pas non. Un groupe, une personne.
Ah, une personne.
Son assemblée.
Ah, qui a son assemblée. Ah, mais il y en a plein partout.
Il y en a qu'une,
ça va. Non, c'est arrivé.
C'est pas mon Jérusalem,
j'ai connu une personne une fois qui m'a dit quel était le Mashiach. Une jeune fille, d'ailleurs. Et qui m'a raconté que lorsqu'elle a été hospitalisée, quand elle a été internée, elle a rencontré là-bas un jeune homme qui lui a dit en grand secret, tu sais, je suis le Mashiach. Elle dit, pour qui tu te prends? Alors, elle était très vexée parce qu'il dit, pour qui il se prend? Voilà, donc... revenons donc à nos histoires.
Oui, sérieusement, ça se rapproche de l'adage talmudique selon lequel, depuis la destruction du temple,
oui,
la prophétie
est passée chez les fous.
Oui, je pense que oui, parce que ça, c'est la prophétie, c'est que Dieu vous parle.
Et alors?
Alors, il y a des gens déséquilibrés qui ont l'impression, effectivement, de...
Que Dieu leur parle, effectivement, oui, effectivement. Parce qu'il y a cet élément-là, c'est-à-dire qu'il y a, dans le phénomène de la prophétie, quelque chose qui ressemble à la folie. C'est-à-dire, avec ces différences que les prophètes ont raison et les fous ont tort. C'est comme, par exemple, j'ai souvent l'habitude de dire qu'un juif, le peuple juif, c'est un peuple paranoïaque, mais qui a raison. C'est-à-dire... Vous savez ce que les paranoïaques sont persuadés qu'ils sont le fruit d'une machination, qu'ils sont persécutés par tout le monde? Les juifs, et c'est comme ça, on n'arrête pas d'affirmer, nous affirmons tout le temps qu'il y a une machination contre nous et que nous sommes persécutés par tout le monde. Mais le pire, c'est que nous avons raison. C'est-à-dire, c'est donc incurable. C'est-à-dire, si un fou pense que tout le monde lui en veut, alors on peut le guérir, parce qu'on dit, écoute, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que vous dites, je veux revenir donc à ce que vous dites là pour l'adage talmudique qui dit que la prophétie a été transmise aux fous. Il y a, dans cette page de la Gemara, on dit que la prophétie, depuis qu'elle a cessé, a été transmise à trois personnes. Aux fous, aux enfants et aux chachamim. Ça veut dire qu'elle s'est scindée. Une partie est arrivée chez les fous, une partie chez les chachamim, une partie chez les enfants. Ça veut donc dire que dans le prophète, il y a un peu des trois. D'accord ? Bon, revenons donc au texte. Là. Bon. Donc c'est quoi Ve'aricho, d'après Rabbi Alexandrie, c'est la souffrance du Mashiach. D'accord ? Il y a une grande souffrance pour le Mashiach lui-même d'ailleurs. La souffrance du Mashiach, c'est qu'il souffre d'attendre la Géoula. Parce que il est de tous les hommes sur terre, il est celui qui comprend le plus la nécessité de la Géoula. Donc quand la Géoula ne vient pas, il souffre. Rava Amar, tandis que Rava explique c'est quoi Ve'aricho, des Morah Ve'daïn. Ça veut dire qu'il respirera, il se servira de l'odorat pour juger. Ve'daïn. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Ve'lo le mar'e einav yishpot, il ne jugera pas selon ce que ses yeux verront. Veshafat betzedek dalim, il jugera avec équité les pauvres. Veochiar bemishor leanve aretz, il fera remontrance avec droiture pour les humbles. Voilà. Bon, donc c'est deux opinions. Il y a une opinion qui voit dans le Mashiach quelque chose de surnaturel, c'est Rava, et l'autre qui dit que le Mashiach ne fait rien de surnaturel, il est simplement chargé de souffrance. Alors, est-ce qu'effectivement le Mashiach doit faire quelque chose de surnaturel? Alors là, on va amener un texte de Rambam qui dit, d'abord on va étudier les deux prochaines lignes, et après on va voir que le Rambam dit quelque chose de très problématique. Je lis ici les deux prochaines lignes. Bar Kozeva, Malar Tarten Shenin Vapalga. Lorsque Bar Kozeva avait régné déjà depuis 2 ans et demi, vous savez qui c'est Bar Kozeva? C'est celui qu'on appelle Bar Kokhva. Bar Kokhva, qui s'est révolté contre les Romains et qui a réussi à libérer la Judée pendant 4 ans.
Et même Rabbi Akiva y a cru.
Et Rabbi Akiva l'a soutenu. Oui, Rabbi Akiva l'a soutenu. Alors, ce qu'il dit ici, on dit que lorsqu'il a eu déjà 2 ans et demi de règne, Amar leho le Rabbanan, il a dit au Chachamim, Anna Mashiach. Je leur dis, je suis le Messie. Amroulé.
Comment vous avez traduit le Palga?
Et demi. Palga, c'est. Bonsoir. Ah non, je vous pardonne tout à fait, pas de problème. Amar le Holy Rabbanan à la Mashiach. Il a dit aux sages, je suis le Mashiach. Amroulé, ils lui ont dit, répondu, Be Mashiach ketiv de Murah Vedaïn. On dit du Mashiach qu'il respire, et qu'il renifle, quoi, si vous voulez, et qu'il juge. Nehze Anan, nous allons te mettre à l'épreuve, nous allons voir nous-mêmes. I Murah Vedaïn, nous allons voir s'il est capable de sentir et de juger. Kevan de Hazyuhu, de la Murah Vedaïn, Katluhu, quand ils ont vu qu'il n'était pas capable de respirer et de juger, ils l'ont tué. Drôle d'histoire. D'abord, pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué? Est-ce qu'il est dit que ce sont les Chachamim qui l'ont tué?
Non.
On dit, ils l'ont tué. On ne sait pas très bien de qui il s'agit. Les commentateurs disent qu'il s'agit des Goïms. Ce sont les Goïms qui l'ont tué. Mais comment est-ce qu'ils ont pu le tuer? C'est parce que les Chachamim n'avaient plus déjà, ne le soutenaient plus. C'est-à-dire, ils sont découragés. Il y avait le soutien populaire a disparu. Alors, Bar Kokhba a été laissé à lui-même, et donc les Goïms ont pu le tuer. Ça veut dire donc ici, Katluhu, c'est exactement comme on dit dans l'hébreu moderne. Liktol, ça veut dire mettre en boîte, c'est-à-dire descendre quelqu'un, dans le sens figuré du terme. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, celui-là, ça vaut rien. Ça veut dire que l'on peut, effectivement, détruire un mouvement par le mépris. Et imagine quelqu'un, une grande entreprise, etc. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ce est capable, donc, en politique, de tuer des gens. Effectivement. Et le problème, c'est que le Rambam dit exactement le contraire. Quand le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans les règles concernant le régime politique, quand il parle du Mashiach, il dit, ne t'imagine pas que le Mashiach doit faire des miracles. Comme le pensent les imbéciles, on dit ce qu'il dit. Kefi sheomrim hatipshim. Et Maïmonide dit, mais comment est-ce que nous savons que le Mashiach n'est pas censé faire des miracles? Eh bien, il amène la preuve de Bar Kokhba. Il dit, Bar Kokhba était considéré par Rabbi Akiva comme le Mashiach. Et tous les sages de sa génération l'ont pensé aussi. Et pourtant, personne ne lui a demandé de faire de miracles. Ce qui prouve que le Mashiach n'est pas censé faire de miracles. Bon, c'est très bien ce texte du Rambam. Le problème, c'est qu'il contredit diamétralement ce que nous lisons ici. Ici, la Guémara dit qu'au contraire, ils l'ont mis à l'épreuve. Hein? Alors, comment comprendre ce texte du Rambam? Ben, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, la plus simple, c'est de dire que le Rambam ne pense pas que juger selon l'odorat est un miracle. C'est-à-dire, on n'a pas demandé à Bar Kokhba de changer la nature. Ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il avait l'intuition de la justice. C'est ça que ça veut dire sentir. C'est-à-dire comme on dit, ça sent le roussi, cette histoire. Bon, alors, ça veut dire qu'il y a une odeur de roussi physique? Non. Ça veut dire que quelque chose, intuitivement, est senti dans une direction ou dans l'autre. C'est ça que ça veut dire. Deuxième possibilité, c'est de penser qu'il y a une contradiction entre le texte du Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, et le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, effectivement, il n'est pas question de miracle qui aurait été demandé à Bar Kokhba, alors qu'il y a plusieurs textes le concernant. Ce qui veut dire que d'après le Talmud de Jérusalem, il n'est pas nécessaire de demander au Mashiach de faire un miracle. Et bien que d'habitude, quand il y a une controverse entre le Bavli et le Yerushalmi, la Halakha est comme le Bavli, étant donné qu'il s'agit ici d'un fait historique et que le fait historique s'est passé en Eretz Israël, le Yerushalmi est plus fiable que le Bavli. Oui ?
On parle de la donnée que Bar Kokhba était le Mashiach ?
Les Chachamim de l'époque l'ont considéré comme le Mashiach. Comment? Le Rambam ne pense pas que Bar Kokhba était le Mashiach.
Alors pourquoi il amène l'exemple de Bar Kokhba pour dire que le Mashiach
Ben oui, c'est-à-dire que si les Chachamim étaient prêts à considérer Bar Kokhba comme le Mashiach, ça veut dire qu'il remplissait les conditions requises. Le fait qu'il ait été tué est bien malheureux. Si Rabbi Korba n'avait pas été tué et qu'il avait réussi, eh bien, il aurait été le Mashiach. Il ne l'a pas été, c'est dommage. Mais le problème est de savoir comment se fait-il que les Chachamim ont pu imaginer qu'il était le Mashiach. Eh bien, la réponse est qu'ils ont pu l'imaginer parce qu'il remplissait les conditions requises, qui sont.
Pourtant, il n'avait pas l'humilité, on dit, il faut qu'il soit.
Vous dites qu'il n'avait pas l'humilité. Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'était un chef de guerre.
C'est, ben c'est très bien, un chef de guerre a de l'humilité. C'est pas le Tramadkal. Un chef de guerre peut tout à fait être plein d'humilité. Par exemple, je vais donner un exemple de ça, c'est le roi David, vous connaissez? C'était un grand chef de guerre. Il a fait dans sa vie 18 guerres. Vous pouvez le voir dans le Tanakh, si vous comptez le nombre de guerres faites par David, il en a fait 18. Et c'était un modèle d'humilité, David Hamelech. Donc, Bar Kokhba, il avait l'humilité, c'est évident. C'était d'ailleurs un grand chef de guerre, effectivement. Mais alors, en quoi Bar Kokhba remplissait-il les conditions nécessaires?
Est-ce que c'était un
Talmid Chacham? Certainement pas. C'était quelqu'un qui était fidèle au Chachamim. C'est-à-dire que ce que dit le Rambam, c'est qu'une des conditions du Mashiach, c'est qu'il soit assidu dans la Torah, comme David son père, selon la loi écrite et la loi orale. Ce qui veut dire que pour être Mashiach, il faut être tout d'abord un homme politique et fidèle au judaïsme rabbinique, évidemment. Pas un karaïte ou un réformé ou un conservatif ou un chiloni. Non, il faut qu'il soit religieux. Ça veut dire quoi religieux? Qu'il écoute les rabbins. Lesquels? Ben, ce que nous voulons, nous, évidemment. Là, il y aura un problème. Mashiach va se ramener, il va dire, voilà, j'écoute les rabbins. Alors, tous les rabbins vont dire, c'est moi qui l'écoute. D'accord? Tout gros problème. En tout cas, Bar Kokhba, effectivement, n'était pas lui-même parmi les Chachamim. Mais il était fidèle à Rabbi Akiva. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les pièces qui ont été battues, les monnaies qui ont été battues par Bar Kokhba, il y a là-bas une intervention dans la halakha. Vous savez que sur les pièces de Bar Kokhba, il y a les quatre espèces, les Arbat Aminim, le Loulav, Etrog, Hadas et Arava. Combien de loulav faut-il prendre à Soukot? Un seul. De Etrogim? Un seul. De Hadassim? Trois. Et de Haravot? Deux. D'accord? Eh bien, si vous regardez sur les pièces de Bar Kokhba, il y a un loulav, un Etrog, un Hadass et une Arava. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion de Rabbi Akiva. C'est-à-dire c'était une manière, si vous voulez, de faire avancer son opinion. Rabbi Akiva lui dit, écoute, je te soutiens politiquement, soutiens-moi halakhiquement. D'accord? C'est-à-dire, diffuse mes œuvres. Alors, la meilleure manière de diffuser la halakha selon Rabbi Akiva, c'est de frapper monnaie avec les Arbat Aminim de Rabbi Akiva. Remarque, ça n'a servi à rien. La halakha n'est pas comme Rabbi Akiva sur ce point. C'est-à-dire, n'essayez pas d'imposer une halakha en passant par le pouvoir. Ça ne peut jamais réussir.
En tout cas.
Comment?
Ni par l'argent,
c'est ça. Vous ne pouvez pas imposer une halakha de cette manière. La halakha, finalement, elle s'impose parce qu'elle correspond à la neshama du peuple, ça ne passe pas par les pièces de monnaie. En tout cas, donc, on voit qu'il y avait un rapport entre Rabbi Akiva et Bar Kokhba, ne serait-ce qu'au niveau de la monnaie. On a retrouvé des lettres de la main de Bar Kokhba, signées par lui. On les a retrouvées dans les grottes de la mer morte, et dans une des lettres, il enjoint aux hommes de Engedi d'envoyer des loulavim et des etrogim à ses soldats, parce que c'était la fête de Sukkot. Et il a dit, si vous ne faites pas, je vous tue tous. D'accord? C'est-à-dire, les méthodes de Bar Kokhba sont un peu violentes. Mais en tout cas, il s'en sert pour imposer la halakha. Donc c'est ça que veut dire le Rambam. Il n'a pas besoin d'être Talmid Chacham, mais il faut qu'il soit fidèle au judaïsme rabbinique. Mais en tout cas, donc, on n'a pas encore compris exactement quelles sont les conditions du Mashiach. La toute première condition, c'est évidemment qu'il soit roi. Il doit être le détenteur du pouvoir politique. C'est pour ça qu'on l'appelle en hébreu Hamelech HaMashiach. Le roi Messie. Ah oui, Messie. C'est donc tout d'abord un roi. Ce qui veut donc dire que s'il est un rabbin, par exemple, il ne peut pas être Mashiach.
Comment?
la royauté n'existe plus. Il n'y a plus droit. Oui. En tout cas, c'est-à-dire que, la souveraineté, ça continue d'exister. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir politique aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, c'est la Knesset, le Rosh HaMemshala, le Nassi, enfin, je ne sais pas exactement. Il faudrait voir où est concentré le pouvoir, mais en fait, ça existe. Il y a l'État d'Israël, qui, du point de vue de la halakha, a le statut de malchut, c'est-à-dire malchut d'un État. D'accord ? Il n'y a pas meloucha, pas de monarchie, mais il y a la malchut. Et donc, c'est-à-dire, pour être Mashiach, il faut d'abord être détenteur du pouvoir politique. Mais non, le Mashiach a-t-il le droit d'être rabbin ? Est-ce qu'il a le droit ? Oui, il a le droit. C'est-à-dire, à ses heures perdues, il peut faire l'étude de la Torah et devenir le Gdol Hador. C'est le cas de David HaMelech, par exemple. Le roi David était un chacham. Il n'était pas le plus grand, il y avait un plus grand que lui à l'époque, c'était Mephibosheth. Mais ce qui fait que David a le titre de Mashiach, loin du Seigneur, c'est parce qu'il est justement capable de faire la guerre, de libérer Israël. Ça, c'est la première fonction. Oui. Il a le droit d'écrire les Tehillim, il n'y a pas de problème. C'est pas en tant qu'auteur des Tehillim qu'il est Mashiach. D'ailleurs, la Gemara nous dit que le livre de Tehillim a été rédigé par 10 personnes différentes. Oui. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que le roi David a pris les œuvres de 10 personnes, entre autres lui, et il a écrit le livre de Tehillim. Et les 10 personnes en question ne sont pas candidates à être le Mashiach. Asaf, Yedutou, Bene Korach, tous ces gens-là.
Non, mais si on l'a fait
Mais évidemment, on attend du Mashiach d'être un grand personnage, d'avoir une chorma gigantesque, beaucoup de Torah, même d'être prophète. On attend ça de lui. Le Rambam le dit, qu'il sera prophète aussi. Mais ce n'est pas ça la première condition. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une condition minimale, et il y a une condition maximale. Alors, si il n'est pas roi, il a perdu la première... On ne le regarde même pas. On ne le compte pas. D'accord ? C'est-à-dire, il faut d'abord être détenteur du pouvoir politique. Et c'est pour ça que Bar Kokhba a pu prétendre « Je suis le Mashiach » et les Chachamim l'ont mis à l'épreuve. Ils n'ont pas dit « Tu es fou ». Ils ont dit « On va le mettre à l'épreuve ». Le Rambam rajoute « Donc la première condition, c'est qu'il soit capable de libérer Israël. Une fois qu'il a fait ça, il doit continuer. Il doit construire le Beth Amikdash, il doit rassembler les exilés d'Israël. En fin de compte, il doit amener la paix universelle. Et puis il doit également... par le roi HaKodesh, désigner la tribu de chacun d'Israël. Et puis de son temps, tout ira bien, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de ça, etc. Tout ira bien, et le monde entier s'occupera d'une seule chose, c'est de la connaissance de Dieu. Mais tout ça, ça vient après. Il y a la toute première condition, c'est d'abord la libération d'Israël. Or, le fait justement que le christianisme n'a pas été accepté en tant que messianisme en Israël, c'est à cause du refus du fondateur du christianisme, de veiller d'abord à la libération d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit aux rabbins. Jésus, il est allé voir les rabbins, il leur a dit « Vous attendez que le fils de David vienne vous libérer de la domination des Romains, mais moi, je suis venu pour m'occuper des âmes. » Alors les rabbins lui ont dit « Oh, c'est poétique, mais c'est en dehors de la tradition. » Oups, évacué. D'accord ? Ou bien, par exemple, le fait que Shabtai Tzvi a été finalement considéré comme un faux messie. C'est vrai qu'il avait des tas d'idées un peu bizarres, mystiques et dangereuses d'ailleurs. Mais ce qui fait qu'il a été rejeté, c'est d'abord parce qu'il a été, bien que lui voulait libérer Israël. Effectivement. C'est-à-dire, Shabtai Tzvi voulait effectivement libérer les Juifs de la Galoute. Il n'a pas réussi. S'il n'a pas réussi, donc il est en dehors du coup. D'accord ? C'est ça qui fait que c'est un faux messie. D'accord ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il y a aujourd'hui une grande erreur qui consiste à considérer que le rabbi de Lubavitch soit est le Mashiach, soit aurait pu être, soit qu'il a été, soit qu'il l'est encore. Enfin voilà. Et il faut bien comprendre quel est le problème dans cette opinion. Le problème de cette opinion n'est pas le fait que le rabbi de Lubavitch est mort. C'est pas ça le problème. Parce qu'à la limite, on pourrait se baser sur des textes du Zohar, etc., qui semblent dire que le Mashiach doit disparaître pour réapparaître. Hein, il doit être enfoui, ganouze, ils appellent ça. Mais le vrai problème, c'est qu'il ait été considéré comme messianisable de son vivant. Et là, il y a le problème. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est mort qu'il y a un problème. C'est parce qu'il était vivant qu'il y a un problème. C'est parce que le Rabbi de Lubavitch était un grand dirigeant spirituel, mais il n'était pas un homme politique. Et la preuve d'ailleurs, c'est que s'il avait voulu lever des impôts aux États-Unis ou avoir une force armée, il aurait été en prison. D'accord ? Oui, mais c'est quoi presque un pouvoir politique ? Ça s'appelle un pouvoir spirituel. C'est-à-dire, s'il s'était posé comme candidat à la royauté, peut-être qu'il aurait pu fonder un État à la limite. Mais il ne l'a pas fait. S'il s'était présenté aux élections d'une ville, je ne sais pas, de la ville de New York, tout simplement, peut-être qu'il aurait été élu. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, le fait d'avoir un pouvoir potentiel, ce n'est pas encore un pouvoir. Dans ce cas-là, toi et moi aussi, nous avons du pouvoir. Nous influençons sur la Knesset, puisque nous votons. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, chacun de nous, nous allons à des manifestations, nous brandissons des pancartes. Ça veut dire que nous faisons partie des choses qui influencent la politique. D'accord ? Mais ça ne nous rend pas encore personnage politique. Comment ? Oui, c'est possible.
Il y a des millions et des millions de personnes qui sont
non, non, non. Descendants de David par les... Attention. Descendants de David par les hommes, par les mâles. C'est-à-dire que la royauté passe d'hommes de filles par les mâles, pas par les femelles. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. D'accord ? Mais lui, il faisait partie de ça. Mais enfin, bon. Oui ? Il faut être de la famille de David, évidemment.
Non, si on veut être de genre, on peut prendre la royauté comme un pouvoir politique de la première crise, on peut être Roche-Michelas, être de la royauté.
Oui, aujourd'hui, une des conditions requises pour prendre le pouvoir n'est pas d'être le roi, descendant du roi David. Pour être Mashiach, oui, effectivement, parce que le Mashiach, il restaure justement la dynastie du roi David. D'accord ? Mais on peut être roi sans être descendant du roi David. Mais ce n'est pas éternel. C'est-à-dire la dynastie doit cesser un jour et laisser sa place aux descendants de David. D'accord ? Hein ? J'ai rien compris. Ah oui, ça commence par Israël et de là, ça rayonne sur le monde entier. C'est ce qu'ont dit les prophètes. D'accord ? Mais c'est d'abord la libération. Et après... il y a des conséquences spirituelles et pas le contraire. C'est-à-dire, il y a, dans le messianisme Lubavitch, il y a une tentative de contourner la dimension politique de la Géoula. Et c'est ça le problème, effectivement. C'est pas le fait que le rabbi est vivant ou pas vivant, qu'il est prophète ou pas prophète.
Mais ce qu'il a eu de bien, c'est les nombreux miracles qu'il a fait.
Oui, mais des miracles, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est pas un miracle qui vous donne le pouvoir politique. S'il dit, voilà, comme je fais des miracles, je demande d'être roi, et qu'il est accepté, alors ça va. Mais sinon, non. Hein ? Il a pas voulu quoi ? Prendre le pouvoir ? Dans ce cas-là, il peut être Mashiach. Le Mashiach, il y a une chose qu'il doit faire, c'est d'abord prendre le pouvoir. D'accord ? Bon. Je sais que, bon, il est probable qu'il espérait. Il espérait certainement, c'est très probable, recevoir cette nomination, c'est-à-dire être accepté en tant que roi d'Israël. Mais ça n'a pas été le cas. Oui ?
Est-ce qu'il y aura une nomination du Mashiach qui doit le nommer ?
Pour être nommé roi, tout pouvoir politique se fait par l'assentiment de ceux qu'il gouverne. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le contrat social. Oui ? Parce que les rabbins, à l'époque, l'ont mis à l'épreuve. C'est-à-dire, il est allé voir les rabbins, c'est ça son problème. Peut-être qu'il n'avait pas été les voir, tout se serait bien passé. Oui, c'est dans. Il y a encore 4 pages pour ça.
Non, je veux dire, si c'est un tenaille obligatoire.
Quoi ?
Ses parents ont appelé Menachem, c'est pas ça, le rabbi.
Le rabbi Lubavitch, ils l'ont appelé Menachem parce qu'il était descendant du Tzemar Tzedek qui s'appelait aussi Menachem. Non, c'est pas impossible qu'ils ont pensé à ça, bien que les parents du rabbi Lubavitch ne savaient pas qu'il deviendrait rabbi Lubavitch. Parce que... Non, il était de la famille. Pas en ligne directe, et donc, il n'avait pas encore épousé la fille du rabbi précédent. D'accord ? C'est vrai qu'il était descendant direct du Baal HaTanya. Mais son père n'était pas le rabbi. Et... Enfin.
Ils auraient pu... Oui. Désigner comme Mashiach des rabbins antérieurs
peut-être que celui-là a été nié parce que c'est celui qui a été contemporain à la création de Tadjikistan.
Oui, certainement. Il y a beaucoup de ça. Bon, ils ont toute une mystique autour de ça, que c'est le septième de la lignée, etc. Mais il y a aussi autre chose, c'est que on peut dire que le messianisme Chabad est né d'une inquiétude. L'inquiétude causée par l'État d'Israël. C'est-à-dire, si l'État d'Israël... étant donné que, dans l'opinion qu'ils défendent, l'État d'Israël ne peut pas être la Géoula, et que l'on risque de penser que ça l'est quand même, alors il est important de créer un messianisme alternatif qui vienne prendre la place du sionisme. Et ça, on peut le créer de toute pièce, de briques et de brocs. Vous amenez des tas de drachotes, vous faites des couronnes brodées sur du velours, et alors vous avez l'impression que vous avez le Mashiach. Une sorte d'illusion comme ça. Bon. Mais il faut comprendre, la motivation est très profonde. C'est d'évacuer la dimension politique. Alors évidemment, quand on leur demande ça, ils disent oui, mais le rabbi a fait beaucoup de choses puisqu'il a influencé la politique. Mais il y a un point intéressant, c'est que par exemple l'opposition du rabbi à des retraits en Yehuda et Shomron. Pourquoi est-ce que le rabbi s'opposait à ce que l'on fasse des retraits d'Eretz Israël? Hein? J'ai bien compris. Oui, mais pourquoi ne pas donner un iota de la terre d'Israël? Pourquoi? D'après le rabbi Lubavitch.
J'ai lu qu'il avait dit que c'était pas une bonne affaire.
C'est ça. C'est parce que ça met en danger les Juifs. C'est à cause de ce qu'on appelle le piquar nefesh. C'est-à-dire que faire des retraits, ça met en danger plusieurs millions de Juifs. Et donc, c'est un piquar nefesh, donc il est interdit de faire des retraits. Voilà. C'est-à-dire, l'idée que c'est parce qu'il y a, une mitzvah de faire la conquête d'Eretz Israël, d'établir la souveraineté, etc., c'est également évacué. C'est contourné. C'est important de faire ça. Bon. Absolument pas. Oui, je veux bien. Si tout le monde fait Shabbat, le Mashiach, il va venir. Pourquoi faire? Il va venir pour établir la souveraineté d'Israël. Bon, ça c'est un autre problème. Le problème de savoir, est-ce que pour que la Géoula se produise, c'est-à-dire que pour que l'indépendance d'Israël revienne, est-ce qu'il faut passer par la Teshuvah ou pas? Il y a un débat là-dessus, on va le voir également plus loin. Il y a un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit qu'il faut faire Teshuvah et alors le Mashiach vient. Rabbi Yehoshua dit que ça n'a rien à voir. D'accord? Comment? Oui. Donc, ce que disent les chassidim de Chabad, ils disent que ça dépend de la Teshuvah. Mais le problème, est-ce qu'il faut identifier la Teshuvah à la Géoula? C'est deux choses différentes. Si je dis que A entraîne B, ça veut dire également que A n'est pas égal à B. N'est-ce pas? Je pense que c'est logique ce que je dis. Donc, alors, si on dit il faut faire Teshuvah pour que la Géoula se produise, ça veut dire une chose en tout cas très claire. C'est que la Teshuvah, c'est pas la Géoula. Or, ce qu'on entend dans cette idée que la Géoula serait un phénomène spirituel, ça serait identifier le phénomène de Teshuvah à la Géoula elle-même. C'est pas ça dont il est question. Hein? Non, la Teshuvah, c'est une chose spirituelle, je suis d'accord. Mais est-ce que la Teshuvah, c'est la Géoula? Réponse, non. Puisque même ceux qui disent que la Géoula dépend de la Teshuvah disent que l'un dépend de l'autre, mais c'est pas identique. Ça? C'est-à-dire quand on entend par exemple Chassid de Lubavitch dire le Mashiach, c'est quand le monde entier s'occupera de Torah, fera de la Tzedaka, etc. C'est-à-dire quand on entend leur discours, ils disent par exemple la puissance spirituelle du Mashiach sera telle que tout le monde fera ce qu'il dira. C'est à nouveau une manière d'évacuer la nécessité de l'assentiment de l'État. D'accord? Bon, je reviens donc à l'histoire de Bar Kokhba. Bon. D'ailleurs, il y a un texte du Radbaz Le Radbaz est un des commentateurs de Maïmonide, Rabbi David Ben Zimra. Dans Ilchot Melachim, il dit que même après que les Chachamim aient quitté Bar Korva, Rabbi Akiva a continué à le soutenir. Ça, ce n'est que lorsque Bar Korva a été tué que finalement, il y a eu échec. Bon.
Il avait fait plaisir, il était obligé de soutenir.
Oui, c'est ça que vous pensez, vraiment? Vraiment, vous pensez? Oui.
C'est important.
Oui.
Puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est à partir du moment où les rabbinim m'ont lâché,
oui,
que ça a causé sa perte d'une certaine manière.
Oui.
Donc c'était important de tout comme vous.
Ben oui. C'est ce que disait Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, il s'en fichait pas mal de savoir s'il y a eu un miracle, pas de miracle, s'il sentait, s'il n'a pas senti. C'est...
Bon, lui, c'est un...
Rabbi Akiva ?
Oui.
Et ben, parce qu'il a... Non, simplement parce qu'il est, il faisait ce que les prophètes ont dit que le Mashiach devrait faire. C'est-à-dire, le Mashiach pour Rabbi Akiva, c'était exactement un type comme Bar Korva. C'est celui qui libère Israël.
Non, on a un Rosh Hashanah qui est les amis de la famille, c'est Mashiach ?
Non. Ça veut dire qu'il a de bonnes conditions pour commencer. Mais il doit continuer. Il doit construire le Beth Amikdash. Le Rambam, il dit, ça s'appelle Chezkat Mashiach.
Mais par contre, il était loin d'avoir construit le Beth Amikdash.
Comment ?
Il était loin d'avoir.
Qui ? Bar Korva ? Il a commencé. D'ailleurs, il y a même, selon certains historiens, on suppose qu'il a commencé à faire des sacrifices. Mais en tout cas, ce que dit le Rambam, c'est que tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il est ce qu'on appelle Chezkat Mashiach. Et après, quand il construit le Beth Amikdash et qu'il rassemble les exilés d'Israël, il devient Mashiach Vadaï. Il y a deux niveaux, Chezkat et Vadaï.
Il oui? n'a pas construit le Beth Amikdash, puisque Dieu le fera descendre quand il voudra.
Ah, génial ça. Je vous aurais payé pour poser la question. Oui. Eh ben, vous voyez bien que le Rambam ne pense pas que c'est Dieu qui va construire le Beth Amikdash. Oui, le faire descendre. Non, non. D'après le Rambam, c'est une mitzvah, parmi toutes les mitzvahs, une des 613 mitzvahs de la Torah, de construire le Beth Amikdash. Et donc, pourquoi laisser ça au Mashiach? D'après le Rambam, ce n'est pas forcément le Mashiach. Si quelqu'un le fait avant lui, ce n'est pas grave, il ne sera pas vexé.
À part de commencer, c'est-à-dire que nous, on peut commencer.
Bah, oui, mais c'est une mitzvah qui concerne le clan. C'est-à-dire, si par exemple... Non, si vous commencez toute seule, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, par exemple... Imaginez, par exemple, un petit groupe comme ça d'illuminés, des types comme ça, très, très portés par le messianisme, etc. Alors, ils construisent un Beth Amikdash portable, démontable, etc., que l'on peut monter en 10 minutes. Non, un vrai Beth Amikdash, enfin, disons, en polystyrène, enfin, on peut faire, voilà. Et puis, ils arrivent avec des mitraillettes. Et puis, comme ça, par surprise, ils rentrent sur leur Arabaït, ils tuent les types du Wab, etc. Ils amènent le Beth Amikdash et ils font un sacrifice. Bon, est-ce qu'ils ont accompli la mitzvah ou pas? La réponse, c'est que non. Parce que, oui, pour une raison très simple, c'est que la construction du Beth Amikdash est une mitzvah du clan. C'est une mitzvah de la collectivité. Et donc, la mitzvah incombe au gouvernement d'Israël. Au gouvernement et à la Knesset. C'est-à-dire que la Knesset doit faire passer une loi de construction du Beth Amikdash, et donc les instruments de l'État doivent le faire. Oui. Bah oui, le clan, c'est ce qui représente jamais pas forcément. Le pouvoir politique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépend de la malchoute. D'ailleurs, c'est écrit dans Maaseret Bava Batra en toutes lettres. Beth Amikdash, il m'allait malchuta la mitbané. Le Beth Amikdash ne peut pas être construit sans l'accord du souverain. D'accord, il faut donc que ça vienne au niveau, au nom du clan. Donc ça ne peut pas marcher autrement. Mais en tout cas, ce que dit le Rambam, c'est qu'il y a donc deux stades. Le premier stade, c'est la libération d'Israël. Et puis après, il fait des guerres, il construit le Beth Amikdash, etc. Et après, il amène la paix universelle.
C'est-à-dire que Mashiach, au début de l'hiver, il ne sera pas appelé par tout le monde, quoi.
Évidemment pas. D'ailleurs, la preuve... Évidemment, il y aura des opposants. En plus, quand on fait des grandes choses, on a toujours des opposants. C'est normal, d'ailleurs. Non, c'est pas normal. Quand on a une bonne idée, quelqu'un a une grande idée, qui pourrait faire beaucoup de bien, c'est évident qu'il y a des oppositions. C'est normal. Alors, si c'est le Mashiach, qu'elle va remettre. Bon.
Il n'y a pas d'autres questions pièges ou autres pour le tester vraiment, pour voir si c'est vraiment
le Mashiach. Il faut voir simplement ce qu'il est capable de faire ou pas.
Il devrait savoir aussi qu'est-ce qu'il doit rédiger l'autre dès qu'il y a quelqu'un qui lui prête quelque chose. Parce que c'est...
Pourquoi vous pensez qu'il doit être prophète?
Comment?
Vous pensez qu'il doit être prophète, c'est ça que ça veut dire?
Non, mais pas forcément.
Mais alors?
Il y a des petites choses qu'il doit aussi savoir.
Quoi? Qu'est-ce qu'il doit savoir?
Par exemple, s'il emprunte quelque chose, il sait très bien qu'il doit négliger un acte aussi avec des témoins et autres.
Bah, il doit être alors, fidèle à la halakha.
Il a une connaissance assez affinée pour pas mal de choses.
Bah, ça veut dire qu'il doit être fidèle à la halakha. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que s'il a une question de halakha, il la pose à son rav. Il dit, allô, ici le Mashiach, j'ai une question d'Alaha. Voilà, c'est tout.
Si lui-même, il doit être rave aussi.
Non, il n'y a pas de question.
Non,
c'est
pas bon,
ben justement, un roi, c'est pour faire la justice, justement. C'est pour rétablir l'ordre dans le monde. C'est-à-dire, le monde est sans justice, parce que ceux qui ont le sens de la justice sont confinés dans la sphère individuelle, tandis que l'État ne fait pas la justice. Et donc, il faut le Mashiach pour rétablir la justice. D'ailleurs, le nom du Mashiach dans le livre d'Ézéchiel, c'est Hashem Tzidkenu. Dieu est notre justice. Justice. Bah, peu importe. C'est ce que dit le Rambam, c'est qu'il n'y a aucune importance à savoir si c'est lui qui s'est déclaré ou si ce sont les autres qui vont se déclarer. Ce qu'il faut faire, c'est pragmatique. Est-ce qu'il est capable de libérer Israël? Est-ce qu'il libère Israël ou pas? S'il libère Israël, ça va. Alors il y a de bonnes conditions. S'il continue, qu'il construit le Beth Amikdash et qu'il amène la paix universelle, alors c'est certainement bien. Voilà, c'est tout.
Donc, Thérèse, il demande devant un Mashiach, c'est qu'il va penser quoi? À monter un parti politique?
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il peut commencer comme chef d'un parti politique.
Non, c'est pour le pouvoir.
Ah, il y a des tas de manières. Comment est-ce que les gens prennent le pouvoir? Alors, dans une situation où la démocratie est saine, effectivement, on se présente aux élections. Maintenant, il peut y avoir des situations révolutionnaires, des catastrophes, des situations où le pouvoir ne fonctionne plus, alors on fait appel à quelqu'un, comme c'était le cas avec Charles de Gaulle, par exemple. Comme ça, comment est-ce qu'il a pris le pouvoir en France? C'était un peu de leur certaine manière, dans la mythologie de l'inconscient collectif des Français, c'était un peu ça. C'était une sorte de Mashiach. D'ailleurs, c'est pour ça que son nom était le libérateur en hébreu. Ben oui. Goël, non, c'est ça. Bon.
Ouais. Est-ce qu'il ne devrait pas construire d'abord le Sanhédrin, puisqu'on parle de la justice?
Le Sanhédrin, ça ne dépend pas du Mashiach. Le Sanhédrin, c'est une décision intérieure des rabbins. Décision interne. C'est-à-dire, les rabbins doivent se réunir et dire, voilà, nous voulons un tel, qui soit notre maître, et alors il désigne les autres et il rétablit le Sanhédrin. D'accord? Alors, est-ce que le Mashiach peut faire partie du Sanhédrin s'il est invité à en faire partie? Bah, Kacha, mais c'est pas ça son travail. Bon, continuons. Daniel, je reprends ici, donc, c'est dans les lignes étroites. Vous voyez qu'il y a des lignes larges et des lignes étroites. Alors, avant l'élargissement, vous comptez 2, 4, 5 lignes. Daniel, voilà. Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Alors là, ce sont les quatre tzadikim supplémentaires qui, eux aussi, ont reçu 6 bénédictions. Où est-ce que nous savons qu'ils ont 6 bénédictions? Dirti Beou, car il y dit 2. Alors, c'est dans le livre de Daniel. Asher en baem kol meum, qui n'ont aucune infirmité. Vetove mar'e, ils sont beaux à voir. Umaskilim bechol chokhma, ayant des connaissances dans toutes les sagesses. Veyodei da'at, qui ont la connaissance de la connaissance. Umevine madar, et qui ont l'entendement de la science. Vaacher koach ba'em, la'amod be'echal ha'melech, ou le lamdam sefer ve'lashon kasdim, et qui ont la force en eux de tenir dans le palais du roi pour leur enseigner les livres et la langue des Chaldéens. Donc, il s'agit ici de 6 bénédictions. D'accord? Vous avez donc 6 bénédictions de Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Maï, Asher, Enbahem, Kolmou. Cela veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas d'infirmité. Ça, c'est la première des 6 bénédictions. Amar, Rabbi Hama, de Rabbi Hanina. Afilu, Keribda, de Kusilta, Lahava, Behu. Même l'égratignure que fait la saignée, il ne l'avait pas. Une saignée, c'est quand on prend du sang, prise de sang. Alors, quand on fait une prise de sang, Alors, il y a une petite blessure, comme ça, il reste un petit point. Alors, même ce point-là, ils ne l'avaient pas dans leur corps, tellement leur corps était parfait. C'est ça. Vacher, Koach Bahem, Lahamod, Bechal HaMelech, que ça veut dire qu'ils avaient la force de tenir dans le palais royal, Amar, Rabbi Hama, Be Rabbi Hanina, Melamed, cela veut dire, Shayu Onsin et Atzman Minasrok, c'est-à-dire qu'ils se retenaient des plaisanteries, ou Minasicha, et des discours, et des discussions, ou Minashena, et du sommeil, ou Ma'amidim Alatzman Be'ashin Srim Nidkavem, qui se retenaient de leurs besoins naturels, Mipne, et Mat Malchut, à cause du respect du roi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui savent se tenir. Ils savent se tenir. C'est-à-dire, ils ont le maintien royal. Et donc, ce sont là les six bénédictions qu'ils avaient. D'ailleurs, ça veut dire que quand il y a intégrité, aussi bien corporelle que de science, de sagesse, etc., ça, c'est ce qui rend digne de la royauté. C'est-à-dire, la royauté ne se permet pas une imperfection quelconque. Vayiyu Bahem, ça c'est la suite du verset, il y a eu parmi eux, Mibene Yehuda, des fils de Yehuda, Daniel, Hanania, Michel, Varzaria. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu parmi eux des descendants de Yehuda. Oui, mais qui sont-ils? Daniel ou bien Daniel, Hanania, Michel, Varzaria? Est-ce que Daniel est un descendant de Yehuda et Hanania, Michel et Varzaria ne le sont pas ou est-ce qu'ils le sont quand même? Est-ce que la liste s'interrompt après le premier ou pas?
Si on dit que c'est le descendant de David.
Alors évidemment, alors vous avez ici une marloquette. Oui, alors, Verabi Shmuel Bar Nachmani, Amar, Daniel Mibnei Yehuda, donc d'après Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Daniel effectivement est un des descendants de Yehuda. Par contre, Hanania, Michel, Vazaria, Mishar Shevatim sont des autres tribus. C'est-à-dire que Rabbi Shmuel Bar Nachmani n'est pas d'accord avec l'enseignement qui a été donné plus haut. Comme quoi, Hanania, Michel et Azaria seraient descendants du roi David. Bon, vous avez donc deux opinions différentes. À moins qu'ils soient descendants de Ruth, mais pas de descendance royale, ce qui est tout à fait possible également. Là, vous avez Umi Banecha, un verset d'Isaïe. Le verset d'Isaïe est un verset qui annonce au roi Hizkiyahu que 150 ans plus tard, ses descendants seront au service du roi de Babylone. C'est-à-dire que déjà à l'avance, Ishaïaou annonce que viendra un jour où il y aura un exil et que dans cet exil, il y aura des princes de Juda qui seront dans la cour du roi de Babel. Il parle donc de Hanania, Michel et Azaria. Alors voici le verset. « Umi banecha, asher yetzeu mimecha asher tolid. Parmi tes enfants qui sortiront de toi, que tu enfanteras, que tu engendreras, Yikrou, on en prendra. Ve'ayu sarissim, ve'echal, meler, bavel. Ils seront des sarissim dans le palais du roi de Babel. D'abord, pourquoi est-ce que Yeshayahu a dit ça? C'était une punition pour Hizkiyahu, n'est-ce pas? Comment ça a commencé? Eh bien, vous savez qu'après la chute de Sanhérib, lorsque Sanhérib a fait le siège de Jérusalem et qu'il a lamentablement échoué, qu'il a eu 185 000 morts dans son armée et qu'il a dû quitter Eretz Israël et que Yehuda, la Judée, était redevenue indépendante. Alors il y a eu des relations diplomatiques entre le roi de Babylone de l'époque qui s'appelait Merodach Baladan Ben Baladan. Beladan. Hein? Merodach Baladan, Ben Baladan. C'est un peu long. Merodach, Baladan, Ben Baladan. Et Ben Laden, quoi. Bon. Et donc, le roi de Babylone de l'époque, qui lui aussi, d'ailleurs, était en train de se libérer de la domination assyrienne, parce que les Assyriens, à l'époque, étaient la grande puissance. Et donc, la victoire de Hizkiyahu a fait plaisir également aux Babyloniens de l'époque, qui était à l'époque un petit royaume, qui était également dominé par les Assyriens. Alors, la Bible nous raconte qu'il y a eu une délégation des Babyloniens qui sont allés voir Hizkiyahu. Hizkiyahu, très enchanté d'avoir reçu des Babyloniens qui venaient dans son palais, leur a fait un tour du du propriétaire, c'est ça. Alors il leur a montré son palais, il leur a montré les trésors cachés de Yehuda, les bonnes huiles, etc. Enfin, des tas de choses. Tout content, et puis alors ils repartent à Babylone. Alors Yeshayahu le prophète vient nous voir, dit qui sont ces gens-là? Ils ont voulu te voir. Alors, le roi de répond, mais Eretz Rechoka Baou Bavel. Ils sont venus d'un pays lointain, de Babylone. C'est-à-dire, genre orgueil. Ils sont venus de si loin pour me voir. Et c'était très grave du point de vue du prophète, parce que ça veut dire que quand on révèle les secrets d'Israël aux nations, eh bien, c'est l'asservissement aux nations. Alors c'est ce que dit, Yeshayahu lui dit, puisque tu as fait ça, sache que viendra un jour où ta royauté, ta descendance cessera de régner et que tes descendants seront au service du roi de Babel. Voilà. Donc tout cela est annoncé à l'avance. Et alors le problème, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le mot starissime? Maïstarissime, ça veut dire quoi? Rav Amar, Rav disait, starissime amar, ça veut dire vraiment des eunuques, c'est-à-dire stérilisés. Donc ça veut dire que Daniel, Hanania, Michel et Azaria ne pouvaient pas avoir d'enfants. N'est-ce pas? Ils ont été donc castrés. Verabi Hanina Amar, tandis que Rabbi Hanina dit non, pas du tout. Chez Nistarsa Avodazara Bimem. Cela veut dire simplement que de leur temps, l'idolâtrie a été stérilisée. Alors, vous avez donc deux manières de voir les choses. C'est-à-dire, soit que Daniel, Michel et Azaria, Michel et Azaria représentent ce qu'il y a de stérile dans la dynastie de David, c'est-à-dire ce qui est asservi aux nations, soit au contraire, le fait que les descendants de David soient dispersés parmi les nations, eh bien c'est ça qui entraîne la disparition de l'idolâtrie chez les Goïs. Effectivement, c'est l'époque où la mythologie a perdu de sa puissance, et qu'a commencé la diffusion du monothéisme, sans parler des grandes philosophies en Grèce, etc. Tout ça, c'est à cette même époque que ça se passe. Donc, on peut voir ça de deux manières. Et là, bon, Bishlama, les mains d'Amar, chez Nistarsa, Avodazarabi même, si on va selon l'opinion de ceux qui disent que c'est l'idolâtrie qui est devenue stérile, Haïnoudirtiv, alors on comprend pourquoi est-ce qu'il est dit. Vehaval la itai behon, et aucune blessure il n'y avait en eux. On parle de Hanania, Michel, Vazara, que lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise, on dit qu'ils ne sont pas blessés. S'ils ne sont pas blessés, c'est-à-dire s'ils sont eunuques, donc ils ont été blessés. Donc ça tient bien d'après ceux qui disent que sarissim ne veut pas dire vraiment sarissim. Et là, les mains des amars sarissim amash, mais pour ceux qui disent qu'ils sont vraiment des sarissim, mai vehaval la itai behon, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de blessure. Havala de Noura, la blessure du feu. Ve'aketiv, ve'reachnour la dat be'on. Ils m'ont dit aussi par la suite, même l'odeur du feu n'est pas restée en eux. Alors on dit non, la havala ve'la racha. Il n'y a eu ni blessure, ni odeur. Bishlama, les mains des Amar, Shinistarsar, Vodazarabimem. Mais non, si on dit que le mot saris veut dire que c'est l'idolâtrie qui est devenue stérile. Aïnou dirtiv, c'est pour ça que Yeshayahu dit, Ko amar Hashem la sarissim asher ishmeru at shabtotai. Ainsi parle l'Éternel aux sarissim qui observeront mes Shabbat. Et là, les mains d'Amar sarissim amash, mais si on dit que vraiment, ça veut dire qu'ils étaient eunuques, Mishta ikra bignuta de tzadike, alors comment le verset va nous dire du mal des tzadikim? On dit ha veha avabeu. On peut dire qu'il y a eu les deux. Ils ont stérilisé l'idolâtrie, mais eux aussi étaient stériles. Bishlama lema de amar sarissim mamash. Maintenant, on va dans l'autre sens. Si on admet que ce sont vraiment des sarissim, haynu dirtiv, c'est pour ça que Yeshayahu nous dit beveti uvchomotai yad vashem tov ibani uvbanot. Je leur mettrai dans ma maison et dans mes murailles un souvenir meilleur que des fils et des filles. Et là, les mains des Amar, Shinistarsa, Vodazarabi, Maitom, Ibani, Ibanod. Mais si on dit que c'est simplement d'avoir stérilisé l'idolâtrie, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur dire qu'ils auront un meilleur souvenir que des fils et des filles? Amar Rav Nachman de Yitzhak, Mibanim Shayu Lahem Kvar, Pametou. C'est à la place des enfants qu'ils avaient déjà et qui sont morts. C'est-à-dire que Daniel, Hanania, Michel et Azaria auraient eu déjà des enfants et que ces enfants sont morts de leur vivant et donc ils ont besoin d'une consolation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de stérilisation, non pas personnelle, mais dans leur lignée. Maïchem Olam et Tenlo Asherlo Ikaret, c'est quoi? Je leur donnerai un souvenir éternel qui ne disparaîtra pas. Amar Abitanchum, Darash Barkapara Betzipore. Abitanchum disait au nom de Barkapora, de Barkapara qu'il avait enseigné à Tzipori, Ze Sefer Daniel. Il s'agit du livre de Daniel, Shenikra Alchemo, qui porte son nom. Effectivement, Daniel a eu un mérite, c'est qu'un des 24 livres du Tanakh porte son nom. Mirdi, et d'ailleurs nous avons un exemple d'un autre cas, d'un tzaddik qui lui aurait dû avoir un livre à son nom et qui ne l'a pas. De qui s'agit-il? Il s'agit de Nehemia. Mirde, Kol, Mile, De, Ezra, Nehemia, Ben Chachalia, Marino. Tout ce qui est écrit dans le livre de Ezra, c'est Nehemia qui l'a dit. Venechamia, Ben Chachalia, Maïta, Ama, Laïkre, Sifra, Al-Shme. Pourquoi est-ce que Nehemia, Ben Chachalia, n'a pas de livre en son nom? Eh bien, c'est parce qu'il il a eu de l'orgueil. Ça, on va le voir la prochaine fois, parce que là, le cours est terminé. Maintenant, je tiens à rappeler que la semaine prochaine,